Spotkania europejskie.
Rozumiem tutaj Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromy της Ευρώπης.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquelles.
Guillaume Meunier.
Bonjour et bienvenue au Carrefour de l'Europe. Le Brexit est un interminable feuilleton dont Theresa May est l'héroïne principale. À chaque nouvel épisode, le pays franchit un pas de plus vers le grand saut dans l'inconnu. Alors à la fin de l'histoire, le Royaume-Uni sombrera-t-il dans le chaos? La question est plus que jamais d'actualité puisqu'en théorie, le 29 mars prochain à minuit, la Grande-Bretagne aura quitté l'Union Européenne. Mais le rejet par la Chambre des communes de l'accord laborieusement négocié entre Londres et Bruxelles pourrait remettre en cause cette échéance. Deal, no Brexit, nouveau référendum ou encore élection générale, tout et son contraire sont possibles au royaume shakespeare-vaudevillien de sa gracieuse majesté. Je vous présente les invités qui nous ont rejoints. Bonjour Thibault Arroy.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'université Paris-Sorbonne, évidemment dans le département monde anglophone. Dans le département monde anglophone, on s'intéresse à la littérature, à la politique, on s'intéresse à tout.
C'est ça, on s'intéresse à tout et moi en particulier à la civilisation britannique.
Bonjour Kevin O'Rourke.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire économique à Oxford. Vous venez de publier aux éditions Odile Jacob une brève histoire du Brexit. Merci d'être en ligne d'Oxford. Alors, je voudrais préciser que vous êtes vraiment un Européen presque parfait. Vous êtes Irlandais, vous enseignez à Oxford et vous êtes très francophone. Et vous êtes même conseiller municipal d'un petit village français qui s'appelle Saint-Pierre-d'Entremont dans les Chartreuses du côté de Grenoble. Autant dire que vous avez un regard sur le Brexit et sur le monde anglophone, dedans et dehors, je dirais peut-être un peu au-dessus. Et puis, bien sûr, Jean-Dominique Giuliani. Bonjour Jean-Dominique.
Bonjour.
Vous êtes président de la Fondation Robert Schuman. En un mot, la Fondation Robert Schuman.
Un laboratoire d'idées, un think tank, dirait-on, à Londres, sur les questions européennes.
The eyes to the right, 202. The nose to the left, 432.
Rejet de l'accord entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne, 432 voix, approbation 202 voix. C'était mardi dernier à la Chambre des communes, 118 élus conservateurs ont fait défection, abandonnant à son triste sort leur première ministre. Une défaite cuisante que Theresa May admet, même si elle reste très combative.
Il est clair que le Parlement ne soutient pas cet accord, mais le vote de ce soir ne nous dit pas non plus comment les députés comptent respecter la décision qui a été prise par le peuple lors du référendum. Chaque jour qui passe fait monter l'amertume, l'incertitude et la rancœur.
Alors Thibault Arroy, la défaite de Theresa May était attendue, c'est son ampleur qui a surpris.
Oui, tout à fait. C'était une défaite attendue dans la mesure où déjà dans les semaines précédentes, dans les jours précédents, les députés avaient clairement indiqué leur refus d'approuver cet accord. C'était déjà la raison pour laquelle d'ailleurs ce vote avait été reporté en décembre. Mais oui, on ne pouvait pas s'attendre à l'ampleur de cette défaite, c'est-à-dire du nombre de députés conservateurs qui ont fait défection, qui ont choisi de voter pour différentes raisons d'ailleurs avec les travaillistes. Contre la proposition du Premier ministre.
Kevin O'Rourke, par leur vote, les députés britanniques ont rejeté l'accord de sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Mais comme le dit à juste titre Theresa May, ce vote ne dit pas ce que veulent les députés et d'une manière plus générale, ce que veulent les Britanniques. D'ailleurs, parmi les 432 qui ont rejeté l'accord et qui se sont réjouis, il y a ceux qui espèrent un Brexit plus dur, voire un Brexit sans accord, et puis ceux qui espèrent que le Royaume-Uni va pouvoir rester dans l'Union Européenne. Ça va être difficile de dégager une majorité.
Oui, effectivement, et c'est ça le grand problème pour les Britanniques. Ils savent très bien ce qu'ils ne veulent pas, mais choisir ce qu'ils veulent, ça c'est plus difficile. Si on leur dirait est-ce que vous voulez le beurre et l'argent du beurre, alors ils diraient sûrement oui, majoritairement, mais dès que cette possibilité est écartée, alors ils ne savent plus quoi choisir.
Alors c'est un petit peu compliqué, donc cela peut quand même apparaître comme un nouveau paradoxe de ce feuilleton interminable qui s'appelle donc le Brexit. Mais les 118 députés conservateurs qui ont rejeté l'accord de divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne mardi ont confirmé Theresa May à son poste de Premier ministre dès le mercredi.
Oui, et c'est probablement une bonne nouvelle, car on n'a pas le temps maintenant pour des élections internes au sein du Parti conservateur. Il n'y a pas le temps pour cela, mais bon, ça ne résout pas le problème non plus.
Jean-Dominique Giuliani, quand on regarde de Paris ce qui se passe à Londres, évidemment on a un peu de mal à comprendre. Est-ce que vous comprenez à peu près où en sont les Britanniques?
Oui, je corrigerai, je dirais que les Britanniques ne savent même pas ce qu'ils ne veulent pas. Parce qu'en réalité, que veut faire Theresa May? Elle veut délivrer le Brexit. Elle veut être fidèle au mandat qu'elle croit avoir reçu du référendum du 23 juin 2016, qui est en fait un mandat populiste, typique. C'est-à-dire, c'est un mandat de rejet, de colère, d'agrégation de sentiments négatifs, rien de positif. Est très difficile à traduire. Et elle veut le traduire en quelque chose de raisonnable. Et à mon avis, traduire un mandat populiste en quelque chose de rationnel et de raisonnable, c'est politiquement impossible. En France, comme au Royaume-Uni, comme aux États-Unis, comme dans toutes les démocraties. Et c'est ça qu'elle essaie de faire. Et on voit bien, c'est la raison de sa ténacité. Elle dit, il faut être fidèle au mandat reçu, les Britanniques veulent sortir. Mais après, quand on regarde comment, on n'arrive pas à trouver une majorité, on n'arrive pas à trouver de bonnes formules acceptables. Et donc, les divisions continuent au sein de la société britannique, plus fortes que jamais, avec des rancœurs, comme elle l'a dit, avec des divisions très très fortes, tout ça au pays, j'allais dire, de la plus ancienne démocratie parlementaire, donc ce qui fait réfléchir beaucoup.
Alors, on va quand même dire un petit mot sur Theresa May. Quelle force, quelle solidité, quelle résilience, Thibault Arroy.
Oui, alors c'est vrai qu'elle est arrivée au pouvoir dans des conditions très particulières, juste après la démission de David Cameron, qui avait voulu le référendum, pour qui ça a été un échec, puisque lui, il faisait campagne pour rester dans l'Union européenne, donc il n'avait d'autre choix que de démissionner. Donc en juillet 2016, la voilà propulsée Premier ministre. Alors c'est vrai qu'elle a... Elle s'y était préparée dans une certaine mesure, mais finalement, ça a été aussi elle est là par défaut.
Par défaut, ouais.
Et sa résilience, le fait qu'elle ait réussi à rester au pouvoir jusqu'à aujourd'hui est aussi dû au fait qu'il n'y a pas vraiment de leader fort de l'opposition, alors que Jeremy Corbyn avait un boulevard devant lui s'il avait voulu vraiment s'opposer et devenir le candidat, par exemple, pour annuler le Brexit, il n'a absolument pas profité, de cette opportunité. Il a été un leader de l'opposition jusqu'à présent assez faible. Et dans le Parti conservateur, il n'y a personne pour prendre la place de Theresa May. C'est la raison pour laquelle elle a gagné le challenge qui lui avait été fait par les députés conservateurs il y a quelques mois. Et qu'aujourd'hui, elle reste au pouvoir malgré la défaite cuisante de mardi.
Alors, un mot quand même sur Jeremy Corbyn, le leader des travaillistes. Il a tenté presque le tout pour le tout avec cette motion de censure. Et ben non, elle n'est pas passée.
Disons qu'il n'avait pas d'autre choix que d'en proposer une. C'est voilà son rôle en tant que leader de l'opposition, surtout que les autres partis d'opposition, on peut penser au parti écossais par exemple du SNP, se sont liés à cette motion de censure. Mais finalement, oui, il a joué son batou, mais il savait très bien qu'il allait échouer dans cette tentative de renverser le gouvernement.
Kevin Rowe, dans la série des missions impossibles de Theresa May, lundi, devant la Chambre des communes, elle va de nouveau rencontrer les députés britanniques, et elle doit leur proposer, alors je sais pas exactement comment on peut appeler ça, une nouvelle stratégie, un nouveau projet, une nouvelle tactique pour essayer de sortir de cet imbroglio. Alors, vu de Paris, on ne voit pas trop comment elle pourrait faire, vu que les négociations sur le Brexit ont duré 17 mois, qu'elles ont donné lieu à un document de 585 pages. Alors, on ne voit pas comment Theresa May, d'ici lundi, pourrait sortir... En gros, ça consiste à sortir un lapin d'un chapeau, Kevin O'Rourke.
Vous avez raison, on voit mal ce qu'elle va faire. Et il y a un problème, son obstination, c'est peut-être une force sur le plan personnel. Elle persiste, mais ça veut dire aussi qu'elle n'est pas très flexible. Donc, par exemple, elle pourrait essayer de dégager une majorité au sein de la Chambre des communes, non pas pour un nouveau accord de retrait, qui est inchangeable, il me semble, mais pour une nouvelle déclaration politique qui est plus floue et qui pourrait peut-être être modifiée. Elle pourrait, par exemple, essayer de voir si elle peut avoir récupéré les votes de ceux et celles qui souhaitent une solution à la norvégienne assortie de complémentaire d'une union douanière. Mais pour cela, il faudrait bien sûr qu'elle abandonne ses lignes rouges et surtout la ligne rouge qui lui est la plus chère, c'est celui concernant la libre circulation des personnes. Car s'il y a une chose sur laquelle elle est totalement claire depuis le début, c'est qu'il y a trop d'Européens en Angleterre.
Le principal point de blocage, est-ce que vous diriez, et je m'adresse à l'Irlandais que vous êtes, est-ce que c'est la frontière irlandaise entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord ?
C'est le principal problème, mais il faut nuancer parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui pose le plus de problèmes. Donc, il y a cette fameuse clause de sauvegarde ou backstop ou filet de sauvetage. C'est une sorte d'assurance qui va empêcher qu'il y ait de nouveau une frontière entre les deux Irlandes. Pour cela, bien sûr, il faut que l'Irlande du Nord reste et dans l'union douanière de fait et de fait aussi dans le marché unique, au moins pour les biens. Alors, cela pose problème aux unionistes dans la Chambre des communes qui ne souhaitent pas qu'il y ait des règles différentes entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord. Donc il y a des unionistes qui n'aiment pas cela, mais au dernier moment, elle a arraché une grosse victoire. On peut dire qu'elle a réussi à faire en sorte que la partie union douanière de cette clause de sauvegarde soit étendue au Royaume-Uni tout entier, ce que ne voulaient absolument pas les Européens. Et maintenant, on a l'impression que cette victoire lui explose dans le visage parce qu'il y a aussi des gens au sein du Parti conservateur qui ne souhaitent pas que la Grande-Bretagne reste liée à l'union douanière. Donc ça peut rassurer quelques unionistes, mais ça n'a même pas marché et ça a agacé d'autres. Donc une question politique intéressante, me semble-t-il, c'est combien de conservateurs qui sont contre cet accord et contre la clause de sauvegarde seraient d'accord avec une clause de sauvegarde limitée à l'Irlande du Nord, ce qui était la proposition initiale des Européens. C'est plus problématique d'un point de vue unioniste, mais il y a aussi au sein du Parti conservateur des gens qui ne sont pas tellement unionistes, mais qui sont vraiment des nationalistes anglais et qui souhaitent prendre le grand large pour leur pays, l'Angleterre.
Juste un mot de clarification, les unionistes, ce sont les 6 députés du parti DUP qui sont des députés de l'Irlande du Nord et qui sont très favorables au maintien de l'union entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni, la Grande-Bretagne, hein, pour clarifier un peu pour nos auditeurs.
Oui, exactement, mais il y a aussi des unionistes au sein du Parti conservateur dont le nom tout entier, c'est le Parti conservateur et unioniste. Et donc, il y a certains conservateurs britanniques qui sont très unionistes et il y a d'autres qui le sont beaucoup moins.
Jean-Dominique Giuliani, les problèmes, on les voit bien, ils sont immenses et on ne sait pas trop par quel bout commencer à essayer de résoudre ces problèmes. Quelles sont les options pour Theresa May? Quelles sont les options pour les Européens? Évidemment, on sent bien que Theresa May aimerait bien, ou certains membres du Parti conservateur aimeraient, ou même les travaillistes, aimeraient bien renégocier avec l'Union Européenne, ça paraît difficile. Une sortie sans accord, c'est le grand saut vers l'inconnu. Demander un délai, puisque normalement, le 29 mars à minuit, heure de Bruxelles, le Royaume-Uni quittera l'Union Européenne, mais demander un délai pour quoi faire? Et puis, évidemment, cette question d'un nouveau référendum. Ça fait beaucoup d'options, mais il n'y en a aucune qui s'impose réellement.
Oui, c'est très difficile de dire comment ça va évoluer. En réalité, je crois que Theresa May doit commencer à faire ce par quoi elle aurait dû commencer. C'est-à-dire, en réalité, regarder sur quoi le Parlement britannique peut être d'accord. Que ce soit avec son opposition ou au sein de sa propre majorité. Or là, elle est partie dans la négociation, bille en tête, avec beaucoup de légèreté, j'ai trouvé personnellement. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus sérieux, connaissant l'administration et la diplomatie britannique. Et elle est partie au point que à l'occasion de plusieurs contacts avec Michel Barnier ou Jean-Claude Juncker, ils se sont étonnés en disant « mais elle est sur une autre planète, souvenez-vous, elle n'a pas vu la difficulté qui s'est finalement traduite dans un texte de 565 pages, etc. » Tellement c'est compliqué pour dénouer des liens qui se sont constitués en 43 ans de vie commune.
Et on peut rappeler que les Britanniques sont ni dans Schengen ni dans l'euro. Ça
voilà, et ils sont ni dans Schengen ni dans l'euro. Alors, comment sortir de tout ça ? Alors d'abord pour essayer de voir politiquement ce qu'elle peut faire passer au Parlement britannique, parce que pour répondre précisément à votre question, il faudra maintenant un vote du Parlement britannique qui a repris la main, quelle que soit l'hypothèse, délai pour quoi faire. Les Européens seraient d'accord d'accorder un délai, certainement, je pense que les 27 n'y verraient pas d'inconvénient, à condition qu'il y ait une perspective politique. Soit on dit, ben voilà, il y a un accord à la Chambre des communes pour renégocier sur telle et telle base, soit on veut faire un deuxième référendum, ce que personnellement, je crois, elle va tout faire pour exclure, hein, parce qu'elle considère que ça pourrait diviser un peu plus la société britannique. Donc l'hypothèse la plus plausible, ce serait essayer d'avoir une sorte de consensus minimal, des contours d'un consensus au sein de la classe politique britannique, puis revenir à Bruxelles pour dire, écoutez, j'ai besoin d'un peu plus de temps pour le formaliser, avoir un accord du Parlement. Bon, tout ça est très fragile, ce ne sont que des si.
Alors, quelles sont les options sur ce sujet ? Emmanuel Macron a sa petite idée, il avait expliqué au maire qu'il a rencontré mardi dans le cadre d'une autre crise française qui est celle des Gilets jaunes.
Je vais vous dire comment je vois les choses. Première option, ils vont vers le no deal. Donc ils disent, il n'y a pas d'accord. Ça fait peur à tout le monde. Les premiers perdants de ça, ce sont les Britanniques. Donc dans ce contexte-là, ils vont devoir, sans qu'il y ait de période de transition, de toute façon renégocier une relation future. Deuxième option, ils nous disent, on va essayer, à mon avis c'est ce qu'ils vont faire, je les connais un peu, on va essayer d'améliorer ce qu'on peut obtenir des Européens, et on va revenir faire le vote. Donc on regardera, mais moi je serai très vigilant à ça, je considère que c'est le mandat qui m'est donné. Puis il y a une troisième option qui est de nous dire, et à mon avis ils vont commencer par la deuxième, puis ça finira à la troisième, on prend les paris, je prends mes risques, c'est qu'ils vont dire au fond on va prendre plus de temps. Et donc ils vont demander d'avoir un plus grand délai pour renégocier quelque chose. Et donc, ils vont prendre plus de temps. Peut-être qu'ils vont enjamber les élections européennes pour essayer de trouver quelque chose d'autre. Mais ça nous dit aussi beaucoup, dans la période que nous vivons, de ce que des référendums qui paraissent sympathiques peuvent créer. C'est que c'est un référendum qui a été manipulé, manipulé de l'extérieur par beaucoup de ce qu'on appelle les infox aujourd'hui, où on a dit tout et n'importe quoi, puis après on a dit, maintenant débrouillez-vous. Et bilan des courses, c'est pas vrai. On a menti aux gens, et ce qu'ils ont choisi, c'est pas possible. Bah après, bon courage pour les représentants de la nation, qui doivent mettre en œuvre un truc qui n'existe pas et l'expliquer aux gens, vous avez voté sur un truc, on vous avait menti.
Alors on a bien compris le clin d'œil d'Emmanuel Macron au-delà de la Manche à ses propres concitoyens français. Jean-Dominique Giuliani, un délai pour quoi faire ?
Justement, alors donc là, vous savez que l'article 50 qui a été déclenché à l'initiative de Madame May, hein, donne 2 ans, c'est-à-dire jusqu'au 29 mars, là c'est sûr, à minuit, s'il ne se passe rien, le Royaume-Uni sort de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'il sort des institutions, ne participe pas aux élections européennes du mois de mai, etc. Et il n'a plus rien à voir avec l'Union européenne comme lien privilégié. Donc la possibilité, c'est de demander aux États européens de prolonger cette période de 2 ans. Il faut l'unanimité. S'il y a une perspective politique avec une solution qui se dessine, les Européens seront d'accord. Mais rien n'est moins sûr. Donc il y a aussi l'hypothèse que Theresa May et le Parlement britannique retirent leur demande de sortie en disant on a besoin d'un an ou deux de plus et on veut pas se soumettre à l'accord des Européens, on prend l'initiative de dire bon...
C'est acceptable ça pour les Européens ?
Pour les Européens c'est tout à fait acceptable. Juridiquement la Cour de justice vient de dire qu'on avait le droit de le faire, et de retirer unilatéralement la demande de sortie et puis se donner un an, 2 ans, peut-être
3 ans,
plus que
disons
ça,
un siècle.
Si c'est acceptable pour les Britanniques, ce qui n'est pas sûr
alors,
du tout.
Du côté européen, il y a quand même un petit problème. Il va y avoir des élections entre le 23 mai et le 26 mai. Ce n'est pas prévu que les Britanniques y participent.
Non,
alors.
Pour l'instant, ils avaient, je crois, 74 sièges au Parlement européen. On se les est répartis entre nous. Tout ça est organisé sans les Britanniques qui sortent des institutions. S'ils voulaient y rester, il ne serait pas difficile de corriger tout ça à temps. Et l'hypothèse, autre hypothèse, c'est que eh bien, il demande une prolongation jusqu'au début du mois de juillet, puisque les nouvelles institutions vont, au Parlement, hein, vont se mettre en place à partir du mois de juillet, en disant, d'ici là, on va avoir un accord aux communes, on participe pas aux élections européennes, on sort bien le 29 mars, ben, en fait, on va sortir le 1er juillet. Voilà. Bon. C'est possible aussi. Donc, les formules juridiques, c'est pas l'Union européenne qui va les compliquer. On est très inventif à Bruxelles, on trouvera toujours de quoi aider les Britanniques à sortir de l'impasse où ils se sont mis, parce que c'est bien ça. Et entre partenaires, c'est pas vrai qu'on veut compliquer les choses. En réalité, on veut les faciliter, parce que personne n'a intérêt à avoir le chaos aux frontières.
Le Brexit, un interminable feuilleton. On va faire une pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Juste le temps de prendre connaissance des toutes dernières nouvelles de la planète. À tout de suite.
Spotkania europejskie.
Rozumiem tutaj Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromy tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Rebonjour Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Le Brexit est un interminable feuilleton dont Theresa May est l'héroïne principale. À chaque nouvel épisode, le pays franchit un pas de plus vers le grand saut dans l'inconnu. Et à la fin de l'histoire, le Royaume-Uni sombrera-t-il dans le chaos? La question est plus que jamais d'actualité, puisqu'en théorie, le 29 mars prochain à minuit, la Grande-Bretagne aura quitté l'Union européenne. Mais le rejet par la Chambre des communes de l'accord laborieusement négocié entre Londres et Bruxelles pourrait remettre en cause cette échéance. Deal, no Brexit, nouveau référendum. Ou encore élection générale. Tout et son contraire sont possibles au royaume Shakespeare-Vaudevillien de sa gracieuse majesté. Je vous représente rapidement les invités qui nous ont rejoints. Thibaut Roy, il est maître de conférence à l'université Paris-Sorbonne Nouvelle dans le département monde anglophone, bien évidemment. Kevin O'Rourke, professeur d'histoire économique à Oxford. Il vient de publier aux éditions Odile Jacob une brève histoire du Brexit. C'est aussi une brève histoire du rapport des Britanniques avec l'Union européenne. Il est en ligne d'Oxford. Et Jean-Dominique Giuliani, président de la fondation Robert Schuman. Avant de reprendre notre débat, nous allons faire un détour par la rédaction du Courrier International. Bonjour Sacha Mitchell.
Bonjour Daniel.
Comme nous tous, Courrier International suit jour après jour cette série télévisée que l'on appelle donc le Brexit. Et de saison en saison, on a l'impression que le feuilleton ne prendra jamais fin.
Et oui, c'est un peu un appel à l'aide que lance une journaliste britannique dans les colonnes du quotidien américain New York Times. Elle s'appelle Tanya Gold et elle en a marre. Marre, trois fois marre de cette situation absurde qui tourne en rond et qui traîne. Et son billet d'humeur commence très fort. Je me demande si c'était comme ça à l'époque de la peste noire. Des gens qui arpentaient les rues en criant « Sortez vos morts » et peignaient des croix sur les murs comme une sorte de Twitter médiéval, hashtag plus aucun espoir. Entre les Brexito-sceptiques qui assure que ça n'aura pas lieu, il y aura un vote populaire, un autre référendum, et les personnes convaincues que l'apocalypse est proche, difficile d'en savoir plus sur l'avenir du pays. Et oui, la question est là. Maintenant que l'accord a été rejeté, qu'est-ce qu'on fait ? Theresa May est déjà allée à Bruxelles, à genoux, pour supplier ses interlocuteurs de lui accorder d'autres concessions. Et voilà qu'autour d'elle, les vautours de son parti conservateur rôdent. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent pour le Brexit, mais ils sont ravis d'être aux portes du pouvoir, écrit-elle. À commencer par Boris Johnson, ancien ministre des Affaires étrangères, donjouant sur le déclin et qui change de coupe de cheveux dès qu'il se sent prêt à devenir Premier ministre. Dans l'opposition, c'est pas mieux. Jeremy Corbyn se nourrit de la situation en attendant les prochaines élections législatives et l'arrivée, il l'espère, au pouvoir du Parti travailliste. Et comme si cela ne suffisait pas, le palais de Westminster tombe en ruine. Et oui, on ne le sait pas forcément, mais le 23 juin 2016, jour du référendum, le sous-sol a été inondé par des eaux usées. Des eaux de pluie et une marée haute, disent-ils, mais je n'en crois pas un mot, écrit Tanya Gold. Les métaphores, comme les dieux, ne peuvent être ignorées. D'ailleurs, les parlementaires vont bientôt devoir déménager le temps d'importants travaux de rénovation. Et au milieu de ce bazar, personne ici ne sait de quoi demain sera fait, soupire-t-elle. Une élection, un autre référendum, un nouvel accord ou une sortie de l'UE sans accord? Depuis un an et demi, nous avons l'impression de vivre un enfer politique. Mais le pire, c'est que je crains que nous regrettions cette période dans quelques temps. La période où la star devenue activiste Pamela Anderson prenait fait et cause pour le leader travailliste Jeremy Corbyn, ce n'est pas une blague, et où l'acteur Andy Serkis, Gollum, dans Le Seigneur des Anneaux, faisait une vidéo où mais et Gollum et son accord, l'anneau. Résignée, fataliste même, la journaliste britannique termine ainsi dans le New York Times. Le Brexit est selon moi une maladie évolutive, un peu comme l'alcoolisme. Vous pensez que la nostalgie ou la vodka, peu importe, vous donneront de l'espoir, mais ça vous tue. Je n'aurais dit ça pour aucun autre moment depuis 1940, mais la comparaison me semble adaptée aujourd'hui. Priez pour nous, conclut-elle.
Merci Sacha Michel, Courrier International, l'hebdo et courrierinternational.com, le site. Kevin O'Rourke a écouté un peu tout ce qu'on, ce papier du New York Times. Le chaos est-il évitable ou pas en Grande-Bretagne?
Oui, le chaos est évitable, mais pour cela, il faut que la Chambre des communes prenne des décisions. Et comme on disait tout à l'heure, ils ont du mal à faire cela. Et juste pour répondre à cette chronique dans le New York Times, malheureusement pour elle, ces débats-là ne vont pas cesser avec le Brexit. Même avec un Brexit avec accord, il va falloir que les Britanniques continuent à débattre de quelle sorte de relations ils souhaitent avoir avec l'Union européenne. Est-ce qu'ils souhaitent être libres à passer des accords de libre-échange avec M. Trump et déréglementer, etc. Ou est-ce qu'ils souhaitent avoir des relations commerciales sans friction avec l'Europe? C'est ça toute la question et ils sont incapables pour le moment de choisir.
Alors Jean-Dominique Giuliani, évidemment, en cas de Brexit sans accord, ce qui est quand même... On est à 69 jours du Brexit du 29 mars. Bah, le temps joue quand même pour un Brexit sans accord.
Sûr, tout le monde joue à se faire peur parce que ce serait un chaos indescriptible, n'est-ce pas, aux frontières, les avions pourraient plus décoller, plus atterrir, le tunnel sous la Manche serait embouteillé par des kilomètres de queue, les Airbus ne pourraient plus être construits parce que leurs ailes sont fabriquées... exclusivement en Grande-Bretagne, et puis l'industrie automobile serait quasiment à l'arrêt. Donc ce chaos-là, personne ne le souhaite, ni les Européens ni les Britanniques,
mais tout le monde s'y prépare.
Mais tout le monde semble s'y préparer, parce que en réalité, nous ne faisons que 10% de ce qu'il faudrait faire pour essayer d'y faire face. Et moi, ça alimente mon inquiétude, parce que on connaît l'Europe, nous sommes tout à fait capables d'avancer vers l'abîme, tout en disant il faut pas y tomber, mais en continuant à avancer. Dans toute l'histoire de l'Europe, c'est ça. Et j'ai peur que le naufrage de l'élite britannique, qu'on voit dans ces divisions au sein de la Chambre, ne permette pas de trouver un accord de sortie pragmatique et honorable, comme on a l'habitude de le faire outre-Manche, et puis aussi ailleurs en Europe. Voilà. Et donc, chaque jour qui passe nous rapproche d'un chaos vraiment très fort.
Alors, Thibault Arroy, ce que révèle aussi ce Brexit, c'est que les Britanniques n'ont jamais été à l'aise avec le projet européen, c'est un euphémisme. Adhésion sans conviction en 1973 et deux ans plus tard, en 1975, un référendum pour savoir si oui ou non les Britanniques veulent vraiment rester dans l'Union, dans la CE, la Communauté économique européenne, c'était le nom de l'Union européenne à l'époque. C'est en gros une question de type Brexit à laquelle cette fois-ci les Britanniques avaient répondu oui. Alors, pour les Français, pour les Allemands, la construction européenne a été le fruit de la réconciliation d'après-guerre. C'était à la fois une évidence et une nécessité. Ce n'a pas été le cas pour les Britanniques. On ne regarde pas l'Europe de la même façon des deux côtés de la Manche.
C'est tout à fait vrai. Au départ, quand la construction européenne a commencé, les Britanniques l'ont regardé de loin, en l'encourageant même, mais en considérant que ce n'était pas le rôle forcément du Royaume-Uni d'y prendre part. Donc ça, c'était dans l'immédiate après-guerre, dans les années 50. Et puis, ensuite, quand le Royaume-Uni s'est trouvé confronté à la perte de son empire, à un certain nombre de difficultés, notamment économiques, l'adhésion à la CE a été vue comme une opportunité, finalement, de raccrocher les wagons avec le reste du continent qui semblait prendre une voie plus prospère. Et donc, c'est le moment des premières demandes d'adhésion, d'abord refusées. On connaît l'histoire avec les refus, le veto du général de Gaulle à plusieurs reprises. Et puis, finalement, donc l'adhésion dans les années 70. Mais, comme vous l'avez dit, c'était une adhésion un peu à reculons.
Conviction.
Sans conviction, tout à fait. Avec toutefois, à l'époque, et ça c'est paradoxal, des conservateurs qui poussaient pour l'adhésion et des travaillistes qui étaient opposés, voyant l'Union européenne ou la CE à l'époque comme finalement un projet beaucoup trop capitaliste, libéral, et donc les travaillistes, dans les années 80 encore, faisaient campagne contre l'Union européenne. Et puis finalement, on a eu le retournement dans les années 90, et après Maastricht, où là, le Parti conservateur est devenu le parti de l'anti-Union européenne.
Alors, Kevin O'Rourke, c'est un des thèmes de votre livre, ce rapport plus qu'ambigu qu'entretiennent les Britanniques avec l'Union européenne. Alors, c'est vrai qu'on peut rappeler que pendant la guerre, évidemment, le pays n'a pas été occupé, qu'il a résisté, qu'il a été le seul, que peut-être la nécessité d'une réconciliation entre les Britanniques et les Allemands n'a pas été ressenti comme nécessaire. Peut-être qu'il y avait, voilà, c'était pas le cas de la France et des Allemands. Le pays est évidemment en mémoire un passé glorieux. Et il vit encore avec aujourd'hui avec l'idée que le Commonwealth peut être une alternative à l'Union européenne. Et les Britanniques pensent qu'ils peuvent entretenir, ou ils pensent qu'ils peuvent entretenir une relation privilégiée avec les États-Unis. Est-ce que tout ça s'explique un peu la genèse du Brexit, le fait que finalement, les Britanniques ne sont pas européens?
Ben vous savez, en partie, vous avez raison, bien sûr, mais il faut aussi souligner le fait que parmi les Européens les plus fervents en Europe maintenant, il y a ces millions de Britanniques qui se sont rendus compte après juin 2016 qu'ils étaient en fait européens.
On n'a jamais autant parlé d'Europe au Royaume-Uni que depuis le Brexit. Hein. Des drapeaux européens qui ont fleuri au Royaume-Uni, c'est tout à fait nouveau.
Oui, c'était toujours une question identitaire chez ceux qui étaient hostiles à l'Europe, mais maintenant c'est devenu, il me semble, une question identitaire, vraiment identitaire chez les gens qui sont favorables à l'Europe. Et ça c'est nouveau, il me semble, car pour les Britanniques, si vous voulez être simpliste, l'Europe c'était surtout une question d'argent. Ils étaient toujours un peu hostiles aux discours continentaux selon lesquels l'Europe c'était surtout un projet politique et un projet de paix. Ce qui est paradoxal, car bien sûr, le Royaume-Uni lui-même offre un des meilleures preuves de la proposition que l'Europe, c'était un projet de paix, vu que l'Irlande du Nord, les problèmes là ont pu être résolus grâce en grande partie à l'Europe.
Bah, on peut quand même constater qu'au Royaume-Uni, il n'y a jamais eu un leader pro-européen, peut-être à l'exception de Tony Blair, qui est aujourd'hui très déconsidéré. C'est quand même un des rares pays en Europe où il n'y a jamais eu un leader pro-européen, Jean-Dominique Giuliani.
Oui, et puis surtout un discours européen, n'est-ce pas, expliquant aux Britanniques tout le bienfait, ou bien parfois les erreurs, de l'appartenance à l'Union européenne. Hein, donc, je me souviens, il y a encore quelques années, pas si longtemps que ça, d'ailleurs Dominique Grieve, qui à l'époque était ministre de la Justice, essayait de faire passer à la Chambre des communes le mandat d'arrêt européen. Il l'a fait nuitamment, je ne sais pas si vous vous souvenez.
En catimini,
en disant « mes policiers en ont besoin, mes juges en ont besoin ». Finalement, les Britanniques qui ne sont pas dans Schengen ont accepté le mandat d'arrêt européen parce qu'ils en ont besoin. Et ils ont fait tout le temps cela, du cherry picking, comme on dit, c'est-à-dire prendre de l'Europe à la carte, plutôt que prendre tout le menu, et sans l'assumer devant leurs concitoyens. Et donc, quand on arrive au référendum, avec, dans une période un peu populiste, un peu de passionnelle, toute la pédagogie de l'Europe, qui a quand même été faite, on l'a vu en 2017 en France, pendant la campagne électorale, de l'euro, ce que ça a apporté, la stabilité, ça n'a jamais été faite au Royaume-Uni. Même Cameron disait, il faut rester dans l'Union européenne, mais avec de mauvais arguments, finalement, et donc tout ça a été balayé par une vague un peu nostalgique, c'est vrai, avec une vague aussi un peu populiste, contre le gouvernement, contre les élites, et donc c'est là qu'on voit l'intérêt aussi de ne pas laisser la construction européenne ou diplomatique en général se développer toute seule sans que les citoyens ne soient informés ou associés.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquel.
Carrefour de l'Europe, le Brexit, un interminable feuilleton. Nous sommes avec Thibaut Arroy, maître de conférence à l'université Paris-Sorbonne-Nouvelle, avec Kevin O'Rourke, professeur d'histoire économique à Oxford, et avec Jean-Dominique Giuliani, président de la fondation Robert Schuman. Kevin O'Rourke, vous avez référence il y a quelques instants à ces milliers de Britanniques qui agitent des drapeaux européens qui sont favorables au maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne, mais ils n'ont toujours pas un leader politique qui s'est imposé pro-européen. Theresa May comme Jeremy Corbyn ne sont pas pour l'Europe, bien au contraire, hein, c'est un peu ce qu'on pourrait dire.
Oui, il y a Nicola Sturgeon en Écosse qui est vraiment pro-européenne et c'est une des leaders les plus impressionnantes dans le Royaume-Uni.
Avec peut-être une arrière-pensée quand même, une arrière-pensée politique pour la leader écossaise.
Mais je crois que si l'Écosse deviendra indépendante, un jour ça sera parce que les Écossais sont européens et que les Anglais ne le sont majoritairement pas. Je me demande si le vrai problème quelque part en Grande-Bretagne, c'est leur système électoral qui fait que c'est vraiment très très coûteux pour des partis de se dissoudre, car en regardant le Parti conservateur, vraiment ce n'est pas un parti, il y a deux partis là, mais c'est tellement coûteux dans leur système de se diviser en deux, car alors vous n'avez plus de siège au Parlement, qu'ils restent ensemble. Si c'était dans un pays où il y avait la proportionnelle, il y aurait non pas deux grands partis mais trois ou quatre, et dans ce contexte là on pourrait voir émerger des majorités centriste pro-européen, car il y a des deux côtés à la Chambre des communes des gens très raisonnables et très impressionnants, mais malheureusement ils ne dirigent pas leurs partis qui sont dirigés par les extrémistes.
Thibault Arroy, vous avez expliqué qu'historiquement les travaillistes étaient très hostiles à l'Union européenne. Évidemment, c'est un petit peu évolué, mais par exemple Jeremy Corbyn, le leader des travaillistes, bon, on a du mal à savoir s'il est pro-européen ou pas.
Alors lui, à l'origine, était anti-européen, c'est-à-dire que si on regarde la manière dont il votait dans les années 80, ses discours à l'époque, où il n'était qu'un backbencher, c'est-à-dire un membre non influent du Parti travailliste, il était résolument contre le marché unique ou contre les évolutions qu'a connues l'Union européenne depuis les années 80. Mais aujourd'hui, il est pris entre deux feux, parce que soit il est fidèle à ses convictions, c'est-à-dire qu'il reste anti-européen et il ne peut pas vraiment le dire, dans la mesure où le reste de son parti, par contre, semble pousser pour éventuellement un deuxième référendum ou en tout cas une prise de position plus claire en faveur de l'appartenance à un marché unique, à défaut d'être dans le marché unique. Il y a dans le parti travailliste cette division entre un certain nombre de membres et de membres du et un certain nombre d'élus également, et ce leader qui n'ose pas assumer ni les convictions de son parti ni ses propres convictions finalement, et là a un discours assez flou sur l'avenir du Brexit.
Jean-Luc Giuliani, le politiquement correct européen consiste à dire que le départ du Royaume-Uni serait une catastrophe, bien sûr d'abord pour les Britanniques mais aussi un moindre mal pour les 27. Mais quel est l'intérêt de garder à tout prix un pays qui a la fibre européenne aussi peu développée, qui pendant 45 ans a bloqué l'approfondissement de l'Union européenne, sauf en ce qui concerne le développement du grand marché, d'où l'élargissement de 2004 et de 2007, sans la mise en place d'une gouvernance appropriée, d'où les opt-out, les exemptions négociées par Margaret Thatcher, d'où le refus de rejoindre la zone Schengen et de participer à l'euro. Quel intérêt pour les Européens de garder à tout prix ces gens qui finalement n'ont pas envie de partir, d'être dans la famille?
La question est légitime. Et la période montre que les choses ont beaucoup changé, parce que les défis aujourd'hui de l'Union européenne, c'est finalement de peser sur la scène internationale face aux États-Unis, à la Chine, en gros, et à la Russie. Et donc peser, ça impose la taille, ça impose de mettre en commun certains moyens, par exemple lutter contre le terrorisme. Il vaut mieux le faire avec les Britanniques qui ont un système de renseignement et de police très efficace.
Mais d'ailleurs, ça peut se faire en dehors de l'Union européenne.
Si vous voulez, tout est lié. À partir du moment où on est dans l'Union européenne, nous sommes des partenaires privilégiés. Et donc, tout est fait, agence, Europol, Eurojust, absence de frontières entre nous, tout est fait, mandat d'arrêt européen, pour qu'on puisse travailler plus en commun. Donc, le départ du Royaume-Uni, c'est une moins-value, quels que soient les reproches qu'on peut faire aux Britanniques, qui longtemps ont été hostiles en réalité au projet politique européen, mais qui en fait ont beaucoup changé, comme vous le disiez tout à l'heure, ont finalement accepté l'Union européenne. Le nombre de Britanniques qui vivent en France...
Mais ils l'ont accepté sans conviction, ils l'ont accepté par défaut.
Oui, et intérêt.
Et intérêt.
Et intérêt. Et donc, mais si vous voulez, ils sont pas les seuls dans ce cas-là, n'est-ce pas? Vous pouvez prendre aux marges de l'Europe les Polonais d'aujourd'hui, le gouvernement hongrois, dans les Balkans, il y a des gens qui n'ont pas d'amour inconsidéré pour l'Europe franco-allemande. Mais en réalité, c'est l'intérêt. L'intérêt, c'est d'être ensemble pour peser. Et on voit bien dans cette négociation du Brexit combien les 27 sont restés unis, parce qu'en fait, ils n'ont pas les mêmes intérêts au regard du Royaume-Uni, mais tous ces intérêts convergent.
Oui, mais on a bien compris, Jean-Dominique Junet, que c'est une moins-value, mais en quoi maintenir les Britanniques qui n'ont toujours pas réglé leurs problèmes européens serait une plus-value pour les 27 qui restent? Est-ce que c'est pas le moment pour les Européens d'aller plus loin avec ceux qui veulent?
On peut se poser la question. Le problème, c'est que les Britanniques ne sont plus des empêcheurs de tourner en rond au sein de l'Union Européenne aujourd'hui. Ils n'en ont plus les moyens, en réalité. Et puis, l'Union Européenne est un peu enquistée pour d'autres raisons, n'est-ce pas? C'est la scène politique intérieure allemande, c'est quelques régimes qui se réclament de l'illibéralisme, les Hongrois, les Polonais au sein de l'Union Européenne, et qui s'opposent à des avancées politiques, et c'est le couple franco-allemand qui se cherche en permanence avec une Allemagne qui a été un peu déstabilisée par l'arrivée de l'extrême droite au Bundestag, la France qui a eu des périodes électorales. Donc voilà, il y a une période européenne qu'Emmanuel Macron voulait au nom de la France relancer et qui est plus difficile à relancer, mais il faut pas désespérer, tu vois, dans quelques jours, la France et l'Allemagne vont signer un nouveau traité d'amitié.
Et ce sera d'ailleurs le thème de l'émission de Carrefour d'Europe la semaine prochaine.
Et donc l'Europe continue, l'Europe, ça marche, qu'on le veuille ou non, ça marche, on l'a vu dans la négociation du Brexit.
Kevin O'Rourke, si je vous pose la question à brûle pour point, qu'a apporté le Royaume-Uni à l'Europe? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit?
Le marché unique me vient à l'esprit immédiatement, car c'est en grande partie une invention britannique Arthur Cockfield, qui était l'architecte principal, enfin bras droit, d'abord de Madame Thatcher et ensuite Jacques Delors, a écrit cette fameuse papier blanche, on dit en anglais, rapport qui mettait en avant la logique du marché unique. Et Madame Thatcher y était très favorable. Et quand on regarde, il me semble, l'Europe aujourd'hui, ce qui nous unifie tous, c'est l'union douanière des années 50. Et le marché unique. Et avec le Brexit, on comprend quels sont les coûts de quitter le marché unique et quels sont donc les atouts du marché unique. Donc, il me semble que le Royaume-Uni a eu un rôle central dans ce qui vraiment continue de définir notre union.
Alors, on peut rappeler que le marché unique, c'est la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes. Et évidemment, le Brexit, il a achoppé sur le thème de la libre circulation des personnes. On peut rappeler quand même que c'est sur les thèmes de l'immigration que ce Brexit a eu lieu, Kevin O'Rourke.
Oui, absolument. En grande partie, si on regarde les campagnes, ils ont vraiment mis en avant les thèmes de l'immigration, parfois de manière très très malhonnête et populiste. Il y a eu ce placard montrant des réfugiés syriens, ce qui n'avait rien à voir avec le marché unique. Il y avait un placard qui disait que la Turquie, avec sa population de 76 millions de personnes, allait rentrer dans l'Union européenne, ce qui n'était pas vraiment très honnête non plus. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on regarde les études statistiques cherchant à comprendre le vote, on voit que l'austérité, la politique fiscale de l'austérité du chancelier de l'époque, George Osborne, a eu beaucoup plus à voir avec le vote pour le Brexit que l'immigration. Il y a eu ce choc du mondialisation auquel nous sommes tous confrontés, et il y a des problèmes dans des régions industrialisées partout en Europe et aussi aux États-Unis. C'est à ce moment-là que les populations ont besoin de filets de sauvetage de l'État-providence, et c'est précisément à cette époque-là que M. Osborne a décidé que c'était une bonne idée de créer un État plus petit, parce que ce serait bon pour l'industrie. Et le résultat, c'est le Brexit, ce qui n'est pas bon, il me semble, pour l'industrie britannique.
Quand les historiens regarderont, avec leur regard d'historien par définition, cette histoire du Brexit, est-ce que les deux mots qui viendront, leur viendront à l'esprit, ce ne serait pas médiocrité et illusion? Médiocrité d'un personnel politique tout à fait exceptionnel, Thibault Arroy. Plus médiocre politicien que les Britanniques en ce moment, c'est difficile de les trouver. On peut se rappeler évidemment le leader de UKIP qui explique Nigel Farage, qui explique évidemment le lendemain on va raser gratis, ce sera formidable. On peut rappeler Boris Johnson avec son bus circulant dans le Royaume-Uni et expliquant que du jour au lendemain, le jour où le Royaume-Uni quittera l'Union européenne, il y aura beaucoup d'argent pour la santé. On a évidemment oublié que le divorce a un coût environ 40 milliards, que c'est finalement pas si facile que ça de quitter l'Union européenne, ça se fait pas en 48 heures, qu'on n'avait pas pensé à la frontière irlandaise. On a beaucoup menti. Et puis peut-être aussi, est-ce qu'on retiendra pas le mot illusion? L'illusion d'un pays de 60 millions d'habitants qui se croit peut-être encore à la fin du 19e siècle, voire au début du 20e.
Oui, tout à fait. Alors la médiocrité, c'est certain, mais ce que vous décrivez, c'est plus que de la médiocrité, c'est même du mensonge. Et là,
la médiocrité implique le mensonge.
Voilà. Bon, Kevin O'Rourke vient d'en parler. Hein. La campagne a été faite sur des thèmes qui étaient mensongers, abusifs et qui ont volontairement trompé les électeurs. Et l'illusion, oui, c'est vrai, il y a cette nostalgie pour un passé fantasmé, fin 19e jusqu'à la moitié du 20e siècle, où le Royaume-Uni était à la tête d'un empire mondial, et l'idée que les pays anciennes colonies, aujourd'hui indépendants et qui n'ont plus forcément de lien fort avec le Royaume-Uni, seraient tout à fait prêts, du jour au lendemain, à signer des accords. Alors que finalement, pour ces pays, déjà, il n'y a pas forcément de lien qui les pousserait à signer ces accords, mais il n'y a même pas forcément l'intérêt non plus de choisir le Royaume-Uni, alors qu'à côté, il y a ce marché européen bien plus grand et avec lequel c'est bien plus intéressant de signer des accords. Donc là, il y a une illusion. De la même manière, il y a une illusion sur la capacité du Royaume-Uni à projeter sa puissance dans le monde. On voit que le Royaume-Uni aujourd'hui veut rouvrir des bases un peu partout, alors que le budget de la défense a été réduit et que là, c'est parce qu'il y a une coopération justement avec des États européens et au premier lieu desquels la France, que c'est possible de maintenir cette défense. Donc oui, certainement aussi une illusion très forte sur ce qu'est réellement aujourd'hui le Royaume-Uni dans le monde.
Merci à tous les trois d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Kevin O'Rourke, je rappelle le titre de votre livre, Une brève histoire du Brexit chez Odile Jacob, réalisation Guillaume Munier avec Maria Afonso et Sacha Michel de Courrier International. Sur la page de l'émission, des infos sur nos invités. Vous pourrez écouter ce Carrefour de l'Europe et tous les autres, RFI.fr ou l'appli RFI Pure Radio à la rubrique émission. On reste en contact via Twitter et Facebook. Daniel Lesescales, où que vous soyez, à Londres, à Paris, ailleurs en Europe ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.